RFI. Le Monde à midi.
La tension ne retombe pas sur les campus aux États-Unis. Au contraire, on a même vu hier des partisans de la cause palestinienne se barricader à l'intérieur d'un bâtiment de la célèbre université de Columbia, malgré les menaces de sanctions de la direction. La veille, des militants avaient protesté contre la politique de Joe Biden envers Israël durant le dîner annuel des correspondants à la Maison-Blanche. Alors, quelles peuvent être les conséquences politiques pour le président américain? Peut-il jouer sa réélection sur ce dossier qui semble de plus en plus inconfortable pour lui? On va en parler avec notre invité. Bonjour Jérémy Guez.
Bonjour.
Professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC à Paris. Alors, vu de France, on a l'impression que la situation oppose essentiellement les manifestants aux directeurs d'université sous la pression d'élus républicains. Est-ce que les critiques des protestataires sur les campus s'adressent aussi à Joe Biden directement?
Très certainement, puisqu'ils en veulent à Joe Biden en matière de politique étrangère qu'ils ne jugent pas opportune de la part des États-Unis. Ceci dit, je pense aussi qu'il y a un effet de loupe, c'est-à-dire qu'on est en train de voir des images assez spectaculaires en provenance de ces universités. Ce n'est pas vraiment certain, pour même dire que c'est probablement évident, que ce n'est pas représentatif en tous les cas de ce que les Américains dans leur ensemble considèrent comme des priorités dans cette élection, qui place probablement l'état de l'économie américaine et la question de l'immigration tout en haut de la liste, toutes les autres questions, y compris celles de politique étrangère, étant probablement très très basses.
Et alors, est-ce que ça pourrait avoir un effet sur la campagne du président américain, puisque a priori, ces partisans de la cause palestinienne sont des électeurs potentiels de Joe Biden? Est-ce que ça risque d'entamer ses chances pour l'élection présidentielle de novembre?
Je ne le crois vraiment pas. Effectivement, ces électeurs-là pourraient décider de rester chez eux. Je vois mal comment ils pourraient se retourner vers Donald Trump, bien entendu. Et donc ça pourrait poser finalement un certain nombre de problèmes. Mais si vous voulez, les problèmes de Joe Biden, on les connaît depuis longtemps, c'est cette difficulté à mobiliser la base démocrate comme il l'a fait en 2020. Donc sur cette question, et comme sur d'autres, effectivement, c'est une question qui va se poser. Je doute fortement que ce soit la dimension israélo-palestinienne qui va peser dans l'élection à terme en tous les cas.
Alors, quelle est la meilleure stratégie pour Joe Biden, selon vous, étant donné ce que vous venez de nous dire? Est-ce qu'il a intérêt à rester bien à l'extérieur de ce débat ou à prendre position?
Probablement rester bien à l'extérieur, de continuer finalement la politique américaine actuelle, qui est celle de trouver des compromis. Il y a un certain nombre de stratèges à Washington qui ont une vue beaucoup plus optimiste que ce que les grands titres aujourd'hui pourraient laisser penser, avec une ouverture par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport au Qatar, le rôle que ces puissances arabes pourraient jouer dans la reconnaissance de l'État hébreu en échange d'un État palestinien. Donc il y a des sorties de crise possibles, c'est ça véritablement à mon avis qui anime le président américain à l'heure actuelle. Ici on parle vraiment d'un débat américano-américain qui pourrait être complètement obsolète à l'automne prochain, à la rentrée prochaine, dans ces universités.
Alors la Maison-Blanche s'est quand même exprimée, elle a demandé dimanche à ce que les manifestations restent pacifiques dans le cadre de la loi. Ce message peut-il être entendu, selon vous, par des étudiants, par des militants qui dénoncent donc sa politique et puis qui sont évacués dans des conditions assez brutales, dont s'alarment aujourd'hui les Nations Unies? On en parlait il y a quelques minutes dans le journal.
Oui, vous savez, c'est un débat vraiment, vraiment générationnel. Parce que là, on a affaire en fait à une jeunesse américaine qui se cherche une identité. Et tout cela n'est pas nouveau. Et elle n'en a pas le monopole, cette jeunesse-là. Parce qu'en fait, toutes ces images qu'on est en train de voir ressemblent vraiment à s'y tromper avec celles qu'on a pu voir en 1968 lors de la guerre du Vietnam. Donc tout ça s'inscrit vraiment dans une longue tradition d'opposition et d'attachement à la liberté d'expression. Et effectivement, vous soulignez un tout autre problème à mes yeux, qui est celui de la police aux États-Unis, qui est effectivement un autre problème qui s'applique à beaucoup, beaucoup de dossiers, y compris celui-là. Pour autant, je pense qu'il y a véritablement une dimension, encore une fois, très propre à l'Amérique et que l'Amérique va devoir surmonter, que ses universités vont devoir surmonter, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de dérapages et de slogans antisémites qui visent des Américains, à proprement parler. Et ces dérapages, aujourd'hui, posent question. Il y a une liberté d'expression, certes, mais avec quelles limites? Et ces limites ont été clairement définies par ces mêmes universités quand il s'agissait de d'autres minorités qui étaient prises pour cible, je pense notamment aux Noirs américains, et ces limites étaient très légitimes. Là, dans le cas présent, on est encore dans le flou pour ces manifestations-là, et ça va être une énorme difficulté pour les universités de redéfinir ce que veut dire la liberté d'expression, la liberté académique, et de préserver finalement cette image de temple intellectuel qu'elles ont été par le passé.
Est-ce qu'on pourrait entendre Joe Biden sur cette question-là, par exemple?
Oh, je pense qu'il s'est déjà exprimé et je pense effectivement que cet appel à des protestations pacifiques, ça s'inscrit droit dans ces traditions de ces universités prestigieuses, de lieux de débat, de lieux d'échange, mais ça n'a pas encore été le cas jusqu'à maintenant. À mon avis, dans l'équipe de Joe Biden, c'est une distraction dont on aurait pu se passer au moment où il y a beaucoup plus de choses et d'enjeux géopolitiques qui sont en train de se jouer au Moyen-Orient, en Ukraine et au-delà. Ou à un moment où il y a quand même un certain nombre de questions liées à l'état de l'économie américaine, de la rivalité avec la Chine, tout ça, c'est une distraction, à mon avis, dont l'équipe Biden aurait pu se passer et pour l'instant jouer la carte, de l'apaisement est probablement la meilleure des stratégies.
Je vous remercie beaucoup, Jérémy Guez, d'avoir été en ligne
Merci à vous.
avec nous. Vous êtes professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris Business School. Vous êtes aussi l'auteur du livre États-Unis, déclin improbable, rebond impossible, qui est paru chez VA Éditions. Merci.